la flûte. Je m'installe. Hein. Voilà. Comme ça. Merci. Urbain, merci. Ouais. Voilà, donc je voudrais lire deux versets avec vous dans la parole de Dieu. Donc d'abord, comme vous le voyez, dans Ésaïe 5, puis au verset 12. Donc dans Ésaïe, de quoi il s'agit? C'est un reproche que Dieu fait. Un reproche que Dieu fait au peuple d'Israël. Quel est ce reproche? Bien, le reproche, c'est « Ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel et ils ne voient point le travail de ses mains. » Ce que fait Dieu, ils ne le voient pas. Alors qu'ils devraient, leur attention devrait être attirée sur ce que Dieu fait. Vous savez, c'est souvent comme ça. Hein. On voit ce que Dieu fait pas et qu'on voudrait qu'il fasse. Ça, en général, on le voit de façon un peu évidente. Hein, Seigneur, pourquoi tu agis pas dans cette situation? Mais on voit, on en finirait par en oublier ce que Dieu fait ou bien a déjà fait dans nos vies. Alors ça, c'est un reproche, vous avez compris, qui a été fait au peuple d'Israël. Suivant. Deuxième reproche, ça c'est un reproche que David, qui est persécuté par des méchants, pour simplifier les choses, eh bien le roi David qui est persécuté, fait un reproche aux méchants qui le persécutent. Et parlant à ces méchants, il dit « Ils ne sont pas attentifs aux œuvres de Dieu, à l'ouvrage de ses mains. » Et ce qui m'est apparu, c'est que ces deux versets, je pense que vous aurez fait attention, c'est quasiment la même chose, mais c'est le même reproche qui est fait à des personnes différentes. Et ce matin, ce reproche, ce n'est pas à nous que je vais le faire, mais je vais plutôt nous encourager à, pour être positif, à être attentif à l'œuvre de Dieu. Voilà le titre du partage de ce matin. Soyons attentifs à l'œuvre de Dieu. Soyons attentifs à ce qu'il fait, plutôt que d'être sans arrêt en train de regarder à ce que nous aimerions qu'il fasse et qu'il ne fait pas, en tout cas qu'on ne voit pas. Alors bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas intercéder. Hein. Si on a un besoin et puis on voudrait que Dieu agisse, on voudrait que Dieu étende sa main, bien entendu qu'on est en droit d'intercéder et puis de demander à Dieu. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire. Hein. Mais je voudrais souligner aussi que parallèlement, il est important qu'on n'oublie pas ce qu'il et qu'on voit ce qu'il fait, qu'on le voit soi-même et qu'on se le dise l'un à l'autre. Et si vous me permettez, c'est ce que je vais commencer à faire ce matin. Alors maintenant, la première question, pourquoi être attentif? Pourquoi devons-nous être attentifs à ce que la main de Dieu fait? Nous devons être attentifs à l'œuvre de Dieu pour que nos cœurs soient gardés dans une attitude de reconnaissance et de foi. C'est une question de comment on se lave, c'est comment on fait du sport et on s'entretient. Il faut s'entretenir dans la foi. Et une des façons de s'entretenir, il y a la louange qu'on vient d'avoir il y a quelques instants, bien sûr, mais aussi être attentif à ce qu'il fait. Et il faut une certaine attention parce que parfois, on finit par ne plus voir ce que Dieu fait. Et la parole de Dieu nous invite à faire attention, soyez attentifs. Soyez attentifs, faites attention, parce que c'est comme ça, en particulier bien sûr, que vous garderez vos cœurs dans une attitude de reconnaissance et de foi. Moi je pense à Job, vous savez, cet homme qui il a perdu ses enfants, il a perdu ses biens, il a perdu la santé, et puis il se lamente de façon très, très juste, je pourrais dire. Et puis Dieu va reprendre Job et va l'attirer sur ce terrain de regarder ce que Dieu fait autour de lui, en particulier dans la nature. Il s'agit des derniers chapitres de Job, Job 38 et jusqu'au chapitre 42. Où Dieu dit à Job, « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Où est-ce que tu étais quand je fondais la terre ? Où étais-tu ? » Puis il lui décrit toute la création. On voit tout, on voit la pluie, on voit le beau temps, on voit les animaux, on voit la mer, on voit les montagnes, etc. Et Dieu lui dépeint tout ça, puis lui dit, « Mais où étais-tu quand je fondais la terre ? » Sois attentif à ce que je fais. Et là, on voit le cœur de Job, effectivement, qui tout en étant, tout son corps étant toujours malade, hein, on va voir le cœur de Job qui va changer. À la fin, il va dire, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées.
Et il va dire la chose suivante. J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Job a été rendu attentif à l'œuvre. Il était rendu attentif à l'œuvre de Dieu et son cœur en a été changé. Alors, merci. Alors, où devons-nous être attentifs à l'œuvre de Dieu? Tout d'abord, ceux qui me connaissent savent que c'est quelque chose que j'ai assez à cœur. Tout d'abord, dans la nature. La nature, c'est absolument extraordinaire. On oublie souvent de voir, de se souvenir de l'œuvre de Dieu dans la nature. Bon, c'est vrai que cette année, les fleurs, on n'a pas vu ce qu'on voit les autres printemps, mais bon, n'empêche que les fleurs sont toujours là. Je vais prendre quelques exemples très rapides, puis je vais changer un petit peu, hein, parce qu'en général, je prends les étoiles, vous savez, mais je vais changer un petit peu. Dans le cerveau humain, il y a des cellules qu'on appelle les neurones. Vous en avez tous. On a tous des neurones dans le cerveau. Savez-vous à peu près combien? Combien de neurones? 100 milliards. 100 milliards. 100 milliards de cellules. Alors, est-ce que c'est beaucoup comme nombre? Je vais essayer de vous d'illustrer un petit peu pour vous montrer à quoi peut correspondre ce nombre. On ne va pas prendre des petits grains de sable qu'on empile. Aujourd'hui, on va faire autrement. Supposons que vous arriviez à compter 10 neurones en une seconde. Bon, compter 10 en une seconde, difficile. Hein, ça veut dire qu'on compte déjà, c'est pratiquement impossible. Quand tu as 3, 4, 5, 6, 10, en une seconde, il faut déjà aller vite. Vous comptez 10 neurones à chaque seconde. Si vous en comptez 10 à chaque seconde, combien de temps vous faudra-t-il pour compter les neurones qui sont dans un seul cerveau humain? 24 heures. Oh non. Ah non, 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 pas 24 heures. Non, non. Il faut beaucoup plus de temps que ça. Il faudra 300 années. Pour aller à 100 milliards, 300 années. 300 ans. 300 années à compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à cette allure-là, pendant 300 ans, et vous arrivez à compter, excuse-moi, hein, les 100 milliards de neurones qui sont dans un cerveau humain. Si vous voulez compter ceux qui sont dans tous les cerveaux de tous les êtres humains, on a à peu près 10 milliards, il faut à peu près 3000 ans. Et si vous voulez compter toutes les étoiles de l'univers, c'est encore, j'y reviens, il faut 30 000 ans. À la même allure. Oui, à la même allure. Les neurones dans un cerveau, vous avez compris, 300 années. Dans tous les cerveaux, 3000 années. Et toutes les étoiles, au lieu des neurones, il faut multiplier encore une fois par 10 et arriver à 30 000 années. Donc c'est incroyable au niveau de la quantité qu'il peut y en avoir. Ensuite, la nature, non seulement il y a des nombres très très grands comme ça dans la nature, tel le nombre des étoiles, le nombre des neurones dans un cerveau humain, mais également c'est quelque chose qui est parfaitement organisé. Je ne sais pas si vous avez observé comme moi, mais il suffit d'ouvrir un petit peu les yeux, d'être attentif à l'œuvre de Dieu. Mais la nature, ce n'est pas un grand bazar. La nature, il suffit de voir la structure de certaines fleurs, il suffit d'observer que la Lune, elle tourne autour de la Terre tourne autour du Soleil, que les planètes tournent autour du Soleil. C'est quelque chose qui est absolument extrêmement organisé plutôt qu'un grand bazar. Alors certains croient que ça a été fait en 10 000 ans, d'autres croient que c'était fait en 15 milliards d'années. Je ne vais pas rentrer dans ce débat ce matin, mais ce qui est certain, c'est qu'au départ, les plans, quel que soit le départ, quelle que soit la date du départ, il fallait que les plans soient là, il fallait qu'il y ait des plans. Et s'il y a des plans, il y a donc, forcément, il y a un architecte qui a fait ces plans. Et cet architecte, il fallait qu'il soit pour faire quelque chose d'aussi organisé, avec des nombres aussi grands, nombre de neurones dans le cerveau, nombre d'étoiles dans l'univers, il fallait que cet architecte-là ne soit pas quelqu'un d'humain, mais soit quelqu'un de surhumain. Il fallait que ce soit un Dieu extrêmement grand, un Dieu extrêmement intelligent, un Dieu extrêmement puissant. Ce Dieu qui est dénoncé dans Romains 1, il nous est dit que les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil, à condition d'être attentif. Et je ne sais pas si vous avez remarqué aujourd'hui, mais tout est là pour que les êtres humains regardent, au lieu de regarder les étoiles, au lieu de regarder la nature, regarde soit le bout de leurs chaussures, parce que tellement on est pressé, tellement on est stressé, tellement ça va vite, on regarde le bout de chaussures ou ce qui reste en liquide dans nos poches. En général, c'est là que se tourne, en argent, hein, c'est là que se tournent nos regards, pas vers la nature. Donc tout est fait aujourd'hui, alors je ne dis pas que quelqu'un fait exprès, encore que dans l'invisible, il y en a un qui fait exprès, c'est certain, mais on dirait que tout est fait pour que nous ne soyons plus attentifs à l'œuvre de Dieu dans la nature. Tout est fait pour ça. Tout est organisé pour qu'on l'oublie. Et je nous encourage ce matin à regarder ces choses. Parce que quand on les considère, on peut dire comme Job, à la fin de sa maladie, à la fin de son épreuve, je reconnais que tu peux tout. Bon, je suis peut-être dans les difficultés, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses dans la nature dont on voudrait qu'ils ne soient pas là, hein, les inondations, les incendies dont on entend parler aujourd'hui. Effectivement, la nature est devenue un petit peu folle, mais il y a aussi des choses absolument extraordinaires. Moi, je ne sais pas si vous avez regardé les cœurs de certaines fleurs, par exemple. Hein. Je dis, mais c'est pas vrai. C'est pas possible que ce soit d'une petite graine, ils sortent des iris, qui sortent toutes ces fleurs, qui sortent des roses, d'une petite graine, ils sortent ça, qui ait autant de couleurs, que ce soit aussi organisé, que ce soit aussi bien fait. C'est pas possible. C'est pas possible. Si, c'est possible.
Plus le parfum.
Plus le parfum, merci René, oui, effectivement. Pour certaines fleurs en tout cas. Merci, oui, tu as raison. Voilà, donc je nous encourage, à être attentif à l'œuvre de Dieu dans la nature. Ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Ensuite, être attentif à l'œuvre de Dieu, merci, dans le monde. Être attentif à l'œuvre de Dieu dans le monde. Alors, comment et où dans le monde ? Ben, il y a plusieurs choses. Israël, si quelqu'un qui est attentif, il se rend compte qu'un peuple comme celui-là, qui a été autant persécuté, qui a subi plusieurs exils, qui a été dispersé dans le monde, puis qui aujourd'hui revient comme ça sur la terre d'Israël, où Dieu le réinstalle, il y a quelque chose qui est absolument extraordinaire. J'ai dit ça il n'y a pas longtemps à quelqu'un qui est un ministre de l'Évangile, pas de notre dénomination, puis il me dit, mais non, il y a d'autres peuples dans le monde à qui c'est déjà arrivé aussi, il y a bien d'autres exemples. Il n'y a pas d'autres exemples. Alors, je ne veux pas dire que je suis pro-israélien, pro-palestinien. Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là non plus. Mais je dis, en tout cas pas ce matin, pas maintenant, ce n'est pas le lieu. Mais c'est extraordinaire quand même. On peut se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas quand même une main qui est là derrière tout ça pour que le peuple d'Israël aujourd'hui puisse être rentré dans son pays ? Moi, je crois que oui. Ça ne peut pas être dû au hasard. Il y a plein d'autres peuples comme ça qui ont été détruits, qui ont été disséminés, qui n'existent plus. Mais pas de peuple comme Israël qui existe encore aujourd'hui, malgré toutes les épreuves qu'il a subies. Également dans le monde, moi j'aime bien Acte 14, je vais vous le lire parce que c'est beau. Acte 14, 15, 17. Acte 14, 15, 17. C'est donc Paul qui parle et il dit « Nous vous exhortons à vous tourner vers Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. » Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies, les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. C'est ce que le chrétien fait quand il rend grâce, par exemple, avant un repas, ou quand il remercie Dieu pour tout ce qu'il lui donne. Nous nous rendons ou soyons attentifs à ce que Dieu fait. La pluie qui nous a tellement embêtés ces derniers temps, en même temps, c'est quelque chose qui est extraordinaire. La nature, peut-être pas autant, hein, on est d'accord, mais bon. On a besoin de la pluie. Comment ?
Pour les nappes phréatiques,
c'est bien. Et puis pour que la végétation pousse, c'est extraordinaire aussi. Regardons tout ce que Dieu, au lieu de regarder ce que Dieu aurait dû donner. Et je répète, hein, on peut intercéder, on est bien d'accord. Mais soyons attentifs aussi à remercier pour ce que Dieu fait et à remercier pour ce qu'il nous a donné. Pour chaque morceau de pain qu'il nous donne, on pourrait remercier. Pour les bonbons, pour les tartes, et puis pour la nourriture, simplement la nourriture dont nous avons besoin pour vivre. Remercions Dieu pour tout ce qu'il nous donne, c'est extraordinaire. Dernière chose encore dans le monde également, dans le monde que Dieu donne, je crois qu'il devrait nous interpeller, moi qui m'interpelle beaucoup, c'est la conscience.
En ce moment, je regarde un petit peu un livre, c'est pas un livre chrétien, c'est un livre scientifique aussi. Hein. la recherche, l'intelligence en question. L'homme, l'animal, la machine. Quelle différence entre un homme, une machine, un animal ?
Là encore, je ne veux pas rentrer dans les débats, mais c'est la conscience, effectivement. En 97, que s'est-il passé en 97, demoiselle qui sait tout, là ? Madame, pardon. Hein. Excusez-moi, monsieur. C'était pas né. 97, si. En 97, c'est la date à laquelle le premier ordinateur, qui s'appelait Deep Blue, a battu un être humain, champion d'échecs, Kasparov, aux échecs. Ouais, 97. On avait produit un ordinateur suffisamment puissant pour battre un homme aux échecs. Et il y a des gens qui ont dit à ce moment-là, mais vous allez voir, il y a des gens qui y croient, encore maintenant, il faut le savoir. Il y a des gens qui croient qu'un jour, les ordinateurs seront devenus tellement puissants qu'ils vont acquérir une conscience comme celle de l'être humain. Il y a des gens qui croient que la conscience, c'est qu'une question de complexité. Le cerveau humain est extrêmement complexe, hein, donc ils disent ouais, il y a une conscience, mais le jour où on fera des robots qui auront une conscience, enfin un cerveau artificiel, une sorte de cerveau artificiel, hein, suffisamment complexe, suffisamment élaboré, eh bien, on verra des ordinateurs, on verra des robots qui vont prendre conscience des choses un petit peu comme un être humain. Il y a des gens qui croient à cela. Et ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge qui va se développer dans les années qui viennent. Regardez les émissions à la télé. On voit des robots. Moi, j'ai vu une émission il n'y a pas longtemps où il y avait des robots. Alors, des robots, des faux. Hein. C'est des êtres humains qui jouaient le rôle, bien sûr. Et on voyait des robots. Et puis, à un moment donné, c'était des robots qui ressemblaient aux êtres humains tellement ils étaient élaborés. Et on voit à un moment donné un robot qui va falloir débrancher. Et on voit toute une famille qui pleure comme ça devant ce robot. On a l'impression que le robot, il a la même conscience que l'être humain. C'est un mensonge. Mais il y a des gens qui le prétendent aujourd'hui. Il y a des gens qui disent, entre le robot et l'être humain, il n'y a qu'une différence de complexité. Moi, je suis désolé. Deep Blue, quand il a gagné aux échecs, il n'avait pas de sentiment. Il n'était pas plus conscient de jouer aux échecs qu'un avion n'est conscient de partir vers Paris, etc. Ouais. La conscience, il y a l'être humain qui l'a, et dans une moindre mesure, bien sûr, il y a aussi des animaux. Il y a des animaux qui ont une certaine conscience quand même des choses aussi. Les animaux très, très... Il y a les singes, mais il y a aussi...
Les dauphins.
Les dauphins. Il n'y a pas que ça. Il y a... Les éléphants. Pas les baleines, les éléphants. Bon, je pensais à un gros animal. Et puis également les pies, certains oiseaux, qui apparemment sont conscients. On les met devant des glaces et on regarde les animaux qui considèrent leur image dans la glace. Certains ne se rendent pas compte que c'est leur image. Il y a des tests pour ça. On voit des chiens, des chats qui se précipitent contre la vitre puis qui se fracassent. Et puis par contre, on voit des singes, on voit des dauphins, on voit des pies, on voit des éléphants. Mais pas à ce point-là. Et on se rend compte que ces animaux ont une certaine conscience aussi. Mais l'être humain, c'est encore autre chose. Et la machine n'a absolument pas de conscience d'être. Il faut qu'il y ait une composante, il faut que chez la créature, il y ait une composante immatérielle pour que la conscience puisse apparaître, pour que la créature puisse se rendre compte qu'elle est en train de penser. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interpeller aussi. Le fait que dans l'univers, il y ait de la conscience, chez certains animaux, mais surtout chez l'homme, il y a quelque chose entre un animal, quel qu'il soit, puis un être humain, il y a un abîme hein, de complexité, de conscience, d'intelligence. Puis bien entendu, il n'y a que l'être humain qui, moi je pense, qui a un esprit, comme Dieu lui a donné. Mais le fait qu'il y ait une conscience, ça devrait interpeller les gens. Le fait qu'on puisse se rendre compte qu'on est en train de penser, rien que ça, ça devrait nous dire, mais il y a quelque chose de bizarre quand même. On n'est pas des ordis, on n'est pas des ordis super évolués, comme on voudrait nous le faire croire aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains capables de nous rendre compte que nous sommes en train de penser. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça devrait nous rendre, nous devrions être attentifs à cela aussi. Seigneur, tu m'as donné une conscience. Voilà, donc être attentif à l'œuvre de Dieu dans le monde, à travers Israël, à travers ce qu'il nous donne, la nourriture, etc. Et puis à travers la conscience qu'il nous donne également. Quatrième chose, être attentif à l'œuvre de Dieu devant ce qu'il a fait pour nous. Et là, ce matin, je ne vais pas nous refaire le catéchisme, mais on en a déjà suffisamment parlé ce matin. Moi, j'aime bien le rappeler ce que Dieu a fait pour nous en relisant ces quelques versets dans l'épître de Pierre. Ce n'est pas par de l'argent, je suis au chapitre 1, ce n'est pas par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Voilà ce que Dieu a fait pour nous à travers sa mort et sa résurrection. Et là, nous devons également être attentifs. Alors, être attentif, vous allez me dire, mais on le sait. Mais oui, on le sait. Mais je suis convaincu qu'on ne le sait pas suffisamment. Qu'on ne s'en rend pas suffisamment compte. C'est un petit peu ce que j'ai voulu partager à Lons pendant la Sainte-Seine dimanche dernier. Nous avons tous besoin de révélation pour que l'œuvre de Christ en notre faveur nous soit rendue encore plus forte, encore plus réelle. Nous avons besoin que le Saint-Esprit nous révèle ces choses, comme il l'a fait peut-être au moment de notre conversion ou en certains moments de notre vie chrétienne. Nous avons besoin que ces choses nous soient rappelées et nous soient rappelées pour que nous les réalisions plus en profondeur. Quand je vois des gens dans certains pays où les chrétiens sont persécutés, qui pleurent quand il est parlé de ce que Jésus a fait pour eux. Je parle de frères et sœurs. Hein. On voit des gens qui pleurent. Ah, je dis, Seigneur, moi, des fois, je me rends compte. Des fois, ça me prend aux tripes quand j'entends parler dans les moments de Sainte-Seine ou de prédication ou à d'autres moments. Quand il m'est rappelé ce que tu as fait pour moi, ça me prend aux tripes. Puis, d'autres fois, bah, je reconnais que... oui, ça me fait quelque chose, mais en quelque sorte, quand même, je passe de façon un petit peu... Je passe, ça passe. Et je crois qu'on a besoin de révélation. Si les chrétiens avaient cette révélation, au niveau des dénominations et de l'évangélisation en commun, œcuménique, je crois qu'on aurait beaucoup moins de problèmes. Parce que les chrétiens se rendraient compte du poids, de la valeur de ce qui les réunit, de ce qu'ils ont. Si les chrétiens se rendaient compte de la valeur de ce qu'ils ont en commun, ils arrêteraient de se chipoter sur ce qui les petites choses qui les différencient. C'est ce que je disais la semaine dernière également, et je le redis parce que j'ai envie de le redire. Vous savez, si l'unité des chrétiens n'est pas ce qu'elle devrait être, ça n'est pas à cause des différences entre les chrétiens. Un petit peu, peut-être. C'est surtout parce que les chrétiens ne se rendent pas compte de la richesse, de la profondeur, du côté extraordinaire de ce qui les réunit. Et plutôt que dire à Dieu, gomme les différences. Moi, je ne suis pas pour qu'on gomme les différences entre les dominations. Peut-être qu'il y a des choses qui enrichissent. On s'enrichit par nos différences. Mais Seigneur, révèle-nous à tous, protestants, orthodoxes, catholiques, patati et patata, chrétiens. Rappelle-nous, montre-nous vraiment ce que ça veut dire que tu es mort sur la croix pour nous et le fait que tu es ressuscité pour que nous ayons une vie nouvelle. Montre-nous ça tout à nouveau. Et je crois que s'il y avait le Saint-Esprit qui faisait cette chose-là, alors je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas, ou pas comme je voudrais, mais si cette chose était vraiment se faisait, je crois qu'on pourrait partir main dans la main dans la rue évangélisée avec plein d'autres frères et sœurs d'autres dénominations, sans se poser de questions sur les petits bidules puis les petits machins qui nous séparent. Voilà, donc attentif à l'œuvre de Dieu également devant ce qu'il a fait pour nous. Et puis dernière chose, être attentif à ce que Dieu fait dans le quotidien. On voit tout ce qu'il ne fait pas, mais on oublie parfois tout ce qu'il fait. Et il fait beaucoup, je dirais, de petites choses dans le quotidien, et on a besoin que notre oreille intérieure soit ouverte pour entendre parfois la voix de Dieu, voir le doigt de Dieu qui nous dit ou qui nous montre ce qu'il est en train de faire à côté de nous et que nous ne voyons pas forcément. Une fois, j'étais au lycée et puis je traversais bêtement la cour du lycée. Et il y a un monsieur, je ne sais pas si je l'ai raconté déjà, celle-là, il y a un monsieur qui balayait. Un monsieur qui balayait la cour, quoi, il balayait les feuilles. Et j'ai eu cette conviction intérieure, c'est un frère. Alors, j'ai tourné autour du pot, j'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, au bout d'un moment, je suis allé vers ce monsieur en lui disant, mais on s'est déjà vu. Plutôt que de lui dire, bonjour frère, est-ce qu'on ne s'est pas déjà vu quelque part? Et effectivement, c'était un frère, et un frère avec qui il était bon que je partage à ce moment-là. Je pense surtout que c'était pour lui. En l'occurrence, ça aurait pu être le contraire. Mais là, c'était pour lui. Et on a pu discuter, mais vous voyez, Dieu a agi, et ce n'était pas dans un contexte. Dans le contexte d'une réunion d'église, ce n'était pas dans une grande convention, c'était dans une cour de lycée. Même pas un lycée privé. Donc Dieu peut parler, Dieu peut agir dans la vie de tous les jours. Il y a très longtemps aussi, celle-là je crois que je ne l'ai encore pas racontée, donc j'essaie de trouver quand même, parce que sinon il y en a qui viennent me voir et qui me disent « tu te répètes un petit peu ». Mais vous avez raison. Il y a longtemps, on était en vacances dans le midi de la France, et puis on faisait du vélo en famille. Et il y avait le petit de la famille qui était Samuel à l'époque, qui avait 3 ans, ou 4 ans, je ne sais plus, ou 5 ans, je sais plus, à peu près. Puis il avait un petit vélo. Un petit vélo, et puis évidemment, nous, avec nos grandes jambes, quand on fait 3 tours de pédale, le gamin, pour arriver à nous suivre, lui, il faut qu'il en fasse 10-15. Conséquence, mais il est passé par-dessus le guidon. Ah, les parents n'ont pas été sages là, hein Monique? Et le gamin est tombé. Le gamin, il était violent, il a perdu connaissance. Alors vous allez me dire, mais où est Dieu? Eh bien, 30 secondes plus tard, une voiture s'arrête. C'était sur un chemin, une petite route, hein, un petit peu perdue. Et cette dame, c'était une infirmière. Voilà. Donc, moi j'aurais aimé que le gamin, il n'ait pas d'accident. Évidemment, mais je trouve que c'est important d'être attentif à l'œuvre de Dieu, même dans une difficulté comme celle-là, parce que Dieu peut quand même, voilà, cette infirmière qui passe, c'était pas un bricoleur, c'était pas un routier, c'était une infirmière. Donc tout de suite, quand la dame nous dit on est infirmière, nous, vous savez, on ne sait pas très bien quoi faire. Puis en plus, même quand on sait, quand c'est votre gamin, on est toujours un peu empoté, on sait pas très bien comment agir. Bon, une infirmière, c'est quand même sympa, Seigneur. Voilà. Être attentif à ce que Dieu fait. Hein? Alors, soyons attentifs à ce qu'il fait, plutôt qu'à... Tu vois? Être attentif à ce que Dieu fait dans la vie de tous les jours. Parce qu'il fait plein de petites choses, et on ne les voit pas. Et je crois que si on disait au Seigneur, ben, rends-moi attentif sur ce que tu fais, comme ça, dans la vie de tous les jours, on verrait peut-être sans doute plein de petites choses qu'on ne voit pas quand on ne fait pas cet effort d'être, ou quand on n'a pas cette ouverture de cœur, d'être attentif à ce que Dieu fait autour de nous et dans la vie de tous les jours. Moi j'aime beaucoup aussi, ceux qui me connaissent savent, je dis, mais Dieu, il agit dans les contextes d'église, dans les réunions d'église, il agit, bien entendu, et c'est important. Et je nous encourage à être fidèles aux réunions, aux cultes, aux réunions de prière, etc. Mais c'est important qu'on vive des choses du lundi au vendredi aussi, dans la vie de tous les jours. Ou samedi, mais il y a les réunions de louange le samedi soir parfois. Donc je faisais exprès de... Je ne parle pas le week-end. Du lundi au samedi, Dieu veut nous rendre attentifs à son œuvre dans le quotidien, même... Hors contexte de réunion. Heureusement. Oui, mais tu sais, c'est pas si... Soyons attentifs. Voilà. Et pour conclure, simplement par un ou deux versets, un verset, célébrez l'Éternel, car il a fait des choses magnifiques, qu'elles soient connues par toute la terre. Et là, on voit non seulement que c'est important d'être attentif à ce que Dieu fait, mais c'est important... Et moi j'aime bien de le dire, c'est les témoignages. Quand un frère, quand une sœur témoigne de ce que Dieu a fait dans sa vie, il se construit lui-même et il édifie également les autres. C'est important que non seulement on soit attentif, qu'on voit, mais qu'ensuite on puisse communiquer pour dire. C'est toujours enrichissant. Parce qu'un jour c'est moi qui ne vais pas bien, ça me fera du bien d'entendre le témoignage de Stéphane. Et puis demain, ou demain ça peut être le contraire, et je crois que l'église elle est là pour ça. Il y a toujours des frères et sœurs qui ont des prières d'intercession,
Il y a toujours des frères et sœurs qui ont des témoignages à donner. Et ça, je trouve que c'est beau, que ça nous aide à avancer ensemble. Comme ça, on avance ensemble plutôt que de ramer tout seul.
Voilà, merci. On peut prier quelques instants. Sentez-vous libre d'élever la voix pour remercier Dieu pour tout ce qu'on a pu entendre et tout ce qu'on aimerait vivre.